Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour. La mondialisation n'est pas à prendre ou à laisser. Elle s'est imposée et il faut s'y adapter. Voilà ce qu'affirme Raymond Barre dans le fameux manuel d'économie politique paru au PUF avec de nombreuses rééditions et qui est indispensable à tout étudiant en sciences économiques. La mondialisation est-elle inéluctable, comme vous l'affirmez? Peut-on envisager une mondialisation autrement, sans ces affres, sans ces inégalités? Pour répondre à ces questions, nous avons l'immense plaisir de recevoir deux éminents économistes membres de l'Académie des sciences morales et politiques. J'ai nommé Raymond Barre, ancien Premier ministre. Bonjour.
Bonjour madame.
Et Jacques Delarosière, conseiller à BNP Paribas, ancien directeur du FMI. Bonjour monsieur Delarosière.
Bonjour madame.
Commençons par circonscrire ce qu'est la mondialisation, monsieur Barre. Vous qui avez vu cette économie mondialisée progressait dans les années 70, dans les années 80. Vous avez vu l'échange flottant, vous avez vu les multinationales se développer. Est-ce que la mondialisation est aujourd'hui aboutie?
Madame, la mondialisation actuelle est le résultat d'une très longue évolution qui a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après les nationalismes qui s'étaient affrontés et qui était à l'origine des guerres, les responsables de l'époque ont pensé qu'il convenait de mettre en place des organisations qui permettraient au monde de fonctionner en résolvant ses problèmes sans conflit. On a donc eu, dans le domaine commercial, dans le domaine monétaire, dans le domaine des investissements, des institutions, je pense notamment au Fonds monétaire international, dont M. Larosière a été un éminent directeur. Cette évolution s'est faite progressivement, parce que des pays qui avaient été détruits se reconstruisaient et qu'ils ressentaient la nécessité de trouver des débouchés de plus en plus étendus. Le cadre national devenait un peu étroit, compte tenu surtout des technologies modernes. Alors nous avons eu régulièrement une suppression progressive des droits de douane. Il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué non pas l'Organisation mondiale du commerce, mais le GATT, les fameux accords sur le commerce. Et puis, nous avons eu, sur le plan monétaire, la disparition des contrôles d'échange et la libération progressive des mouvements de capitaux. Et puis, nous avons eu l'ouverture d'un certain nombre de pays, de territoires qui étaient à l'écart du cœur de l'activité économique, mais qui s'y sont présentés successivement et progressivement. Si bien qu'à l'heure actuelle, c'est le monde qui est couvert par un réseau d'échanges, par un réseau de relations financières, par un réseau de dispositions régulatrices, ce qui fait que nous avons un phénomène qui est incontournable. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait dans le monde, d'un côté, les pays développés riches, avec à leur tête les États-Unis, suivis par les Européens, mais qu'aujourd'hui, je vous dirais que la distinction entre pays développés et pays en développement, à mes yeux, ne tient plus. Ce qui compte, ce sont les pays déjà développés et assis sur leurs richesses et les pays émergents qui vont, dans les prochaines années, jouer un rôle de plus en plus grand. Donc, abandonnons l'idée pays en développement, pays développés. Il y a les pays riches et les pays qui s'efforcent de les rattraper. D'où le nom de pays émergents.
Monsieur Delarosière, comme vient de le dire Monsieur Barr, effectivement, il y a un rattrapage en fait des économies émergentes. Quand même, le monde reste coupé entre les pays riches et d'autres qui profitent moins de la mondialisation. Est-ce que cette dichotomie est toujours pertinente ?
Non, je ne crois pas. Monsieur Barr a raison de dire que le clivage pays en développement, pays développé, n'est plus actuel. Vous avez des pays riches qui souffrent de la mondialisation parce qu'ils y sont mal adaptés. Vous avez des pays émergents qui bénéficient beaucoup de la mondialisation parce qu'ils s'y adaptent, parce qu'ils deviennent meilleurs, pas seulement en capacité d'exporter du textile ou des matières premières, mais parce qu'ils deviennent meilleurs du point de vue de la technologie et même de la haute technologie. Et puis, vous avez des pays développés, riches, comme l'Allemagne par exemple, qui gardent leur compétitivité, qui ont une capacité à innover, à réaliser des exportations très concurrentielles, plus concurrentielles même que celles de la Chine, malgré le désavantage monétaire. Et donc, le monde est vraiment, je dirais, beaucoup plus homogène. Et il y a ceux qui prennent les opportunités, les chances de la mondialisation comme un facteur positif. Ils accentuent l'innovation, ils accentuent tout ce qui est recherche et développement. Et puis, il y a ceux qui ont un peu tendance à se laisser vivre. Et ceux-là, jour après jour, perdent du terrain et perdent aussi des emplois.
À la suite de M. Larosière, vous avez déclaré que la mondialisation empêchait un certain nombre de pays de se développer. En réalité, les pays se développent et bénéficient de la mondialisation s'ils transforment leur structure et leur régime intérieur. C'est ça l'adaptation. Se mettre en état, je reprends l'expression de M. Larosière, de bénéficier des opportunités qui leur sont offertes.
Monsieur le Premier ministre, est-ce que cela veut dire que la mondialisation, effectivement, amène à lutter contre les inégalités déjà entre les pays ? Parce qu'on a quand même l'impression que la mondialisation accentue ces inégalités, ne serait-ce qu'à l'intérieur des pays, entre ceux qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas. Comment est-ce que vous voyez cela ?
Madame, pour un économiste, l'inégalité est un fait qui demeurera toujours. Vous avez des pays, des populations qui font des efforts pour augmenter leur capacité d'agir, leur richesse, et vous en avez d'autres qui sont à la traîne. La mondialisation, c'est à mon avis avant tout la compétition généralisée. Auparavant, on était en compétition dans le cadre français, dans le cadre européen. Maintenant, la compétition est mondiale. Vous avez les Chinois, les Indiens, les Russes, sans parler des pays du sud-est asiatique, sans parler de la Malaisie, pays auquel on ne pensait pas naguère. La compétition est générale et le problème est celui de l'adaptation à cette compétition. Mais c'est la vie. Que ce soit un milieu national, un milieu plurinational ou international, il faut toujours s'adapter à des situations qui s'imposent à vous beaucoup plus que vous ne pouvez vous imposer à elles.
Et j'ajouterai une chose à ce que vient de dire M. Barr, c'est que quand vous dites les inégalités du monde s'élargissent, s'accusent à travers la mondialisation, je crois que ce n'est pas exact. Beaucoup de pays, l'Inde, la Chine, pays du sud-est asiatique, d'Amérique latine, sont en train de voir leur niveau de vie se relever à la faveur de leurs exportations, du fait qu'elles sont des participants actifs dans le système mondial. Et donc, on ne peut pas dire que c'est un facteur d'inégalité. Alors, qu'à l'intérieur de la Chine, du Brésil, du Mexique...
Ou de la France,
il y ait un écart croissant entre les revenus les plus élevés et les revenus les moins élevés, c'est possible. Ce n'est pas d'ailleurs statistiquement démontré. Il y a des cas où ça se produit et il y a des cas où ça ne se produit pas. Donc il ne faut pas avoir un jugement péremptoire là-dessus, mais je crois que quand ça se produit et qu'on cherche pourquoi ça se produit, on s'aperçoit que ce sont les pays qui ont le moins de capacité à élever leur jeunesse au stade, si vous voulez, qui est vraiment celui de la compétition, qui ont ce phénomène de croissance d'inégalité.
C'est-à-dire que la mondialisation n'est pas assez avancée, en fait.
C'est-à-dire que les conséquences de la mondialisation ne sont pas toutes tirées au niveau des réformes de structure et notamment de l'éducation.
L'idéal d'un monde globalisé, mondialisé, et donc d'un capitalisme dans sa forme la plus pure, permettrait de lutter contre certaines choses qui, aujourd'hui, est un frein à cette mondialisation et dont on subit les conséquences.
C'est un révélateur d'insuffisance. Si vous faites les réformes de structure qui s'imposent, vous bénéficiez de la mondialisation. Si vous ne les faites pas, petit à petit, vous reculez. Et c'est plus exigeant que n'était un système moins compétitif autrefois, où on pouvait vivre un peu tranquillement sur ces insuffisances de structure. Maintenant, il faut se lever de bonne heure.
Monsieur le Premier ministre.
Je voudrais citer un continent qui est toujours représenté comme un continent à la traîne, où les inégalités sont épouvantables, où les niveaux de vie sont très bas. Quand on regarde de près l'Afrique, on s'aperçoit qu'il y a des pays africains qui se sont développés avec un taux de croissance de l'ordre de 5% au cours de ces dernières années, parce qu'ils ont fait l'effort nécessaire. Il y en a d'autres, au contraire, qui s'endorment dans leur vie habituelle et qui ne peuvent pas en bénéficier. Je suis très frappé pour avoir vu les dirigeants de beaucoup de pays en développement. Je suis frappé du fait que certains d'entre eux considèrent la mondialisation comme la clé de leur avenir, alors que d'autres considèrent la mondialisation comme un danger dont il faut se protéger. Je disais tout à l'heure, la mondialisation, c'est la compétition. J'ajoute, la mondialisation entraîne la disparition des protections intérieures comme des protections internationales. Cela ne veut pas dire du tout le laisser faire, laisser passer, parce qu'il y aura, et on le voit déjà, des règles du jeu s'installer. Mais attention, ce sont des règles du jeu, ce sont des régulations globales acceptées par tout le monde, ce ne sont pas des mesures de protection individuelles.
Parce qu'aujourd'hui, Monsieur de la Rosière, on assiste à un recul de la mondialisation à certains niveaux. Déjà, la mobilité des personnes n'est pas du tout assurée. On voit certaines régions économiques s'effriter ou ne pas avancer au rythme qu'elles le pourraient. On pense à l'Amérique latine, aux accords de libre-échange avec les États-Unis. On voit par exemple le Venezuela vouloir faire sécession par rapport à ce genre d'accord. Il y a des mouvements aussi en Europe qui vont contre la libéralisation des échanges et contre la mondialisation. Est-ce que vous avez peur, vous, que la mondialisation recule ?
Oui, parce que ce que vous venez de dire, c'est déjà produit dans l'histoire. Quand on a eu la première mondialisation, celle du milieu des années 1800-1850 vers la guerre de 14, il y a eu une première époque de mondialisation où les capitaux circulaient, où le commerce était très ouvert, où il y avait de l'information, où il y avait la découverte du télégraphe, les premiers câbles transatlantiques, etc., etc. Et les capitaux directs étrangers était très développé. Or, cette première mondialisation, comme on l'appelle, a créé des phénomènes d'appauvrissement local. Il y a eu, par exemple, de très grandes crises agricoles en Europe du fait de l'ouverture de l'Europe aux produits canadiens, aux produits australiens et américains. Et il ne faut pas du tout sous-estimer les difficultés et les réactions protectionnistes qu'il y a eu à l'époque face à ce phénomène. Ce que je constate, c'est qu'il y a en effet, aux États-Unis, comme chez nous, et comme c'est vrai en Inde, en Chine et dans d'autres pays en développement, en croissance, il y a des tentatives, des tentations de rejet ou de protection. Ça existe très fort aux États-Unis. Ne sous-estimez pas au Congrès, et en particulier au Congrès démocrate, la force des réactions protectionnistes. Ne sous-estimez pas, en Chine, une certaine frayeur ou une certaine réticence à l'égard du capital étranger qui vient s'installer en Chine et qui prend possession de grandes entreprises. Ne sous-estimons pas, en Amérique latine, certaines tendances au retour à la nationalisation des grandes entreprises de matières premières, telles que vous venez de le dire, au Venezuela. Donc ces choses existent. Mais je pense que la force de l'idée de la compétition mondiale, la difficulté à ce stade d'établir des barrières partout qui freineraient le commerce mondial et qui freinerait énormément les standards de vie, car ne nous trompons pas, si on revenait à une France hexagonale et à une Allemagne localisée, les niveaux de vie baisseraient brutalement. Certes, on se protégerait un peu des exportations, mais on serait obligé à ce moment-là de réduire nos propres exportations. On pourrait importer un petit peu, mais on pourrait un peu moins, mais on exporterait beaucoup moins. Et le rapport entre les deux, les termes de l'échange, nous serait extraordinairement défavorable. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un retour massif au protectionnisme, mais je pense, comme vous l'avez dit, qu'il y a des tentations qu'il faut essayer de limiter. Et pour les limiter, je reviens à ce qu'a dit M. Barr, qui me paraît fondamental. Cette mondialisation ne fonctionnera qu'avec une régulation admise, qu'avec une gouvernance, comme on dit de nos jours. Sur les taux de change, il ne faut pas se leurrer. Le Fonds monétaire international n'est pas en mesure aujourd'hui d'assurer une gouvernance sur les taux de change. Alors les taux de change flottent, mais plus ou moins, et nous savons très bien que la Chine, par exemple, a un taux de change qui est artificiellement maintenu bas par une politique d'exportation très systématique et d'intervention sur le marché d'échange. Est-ce que le Fonds monétaire dit quelque chose de cela? La réponse est malheureusement non. Et donc, si nous arrivions à avoir une régulation mondiale vraiment acceptée sur une base totalement fair, comme disent les anglo-saxons, je pense que les phénomènes de tentation, de protectionnisme que vous venez d'indiquer, seraient moins forts. Il nous faut un peu nous protéger, non pas contre la compétition, mais il nous faut nous protéger contre les abus de la compétition, le dumping, ou les formes inacceptables, si vous voulez, de la contrefaçon, c'est la propriété intellectuelle, de la manipulation des taux de change, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de terrain pour une meilleure régulation mondiale.
Nous marquons une courte pause.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Monsieur Barr, quelles réformes voyez-vous pour la mondialisation? Est-ce que vous voyez certaines choses améliorées, comme venait de le dire Monsieur de la Rosière, améliorer effectivement le fonctionnement de l'OMC, créer de nouveaux organismes? Quel horizon voyez-vous?
Madame, j'ai tendance à penser qu'il faut d'abord que les pays mettent en ordre leurs propres affaires, ce qui les conduit à tirer les avantages de la mondialisation. Moi, ce que je trouve très intéressant...
Donc, au niveau de l'État, au niveau de la nation, voilà.
Au niveau de la nation. Au niveau de la nation. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que la mondialisation bénéficie, à l'heure actuelle, beaucoup plus aux consommateurs qu'aux producteurs. Et ce sont les producteurs qui réagissent. Le cas des États-Unis, signalé par M. de la Rosière, est évident. L'intérêt des États-Unis est d'importer les produits chinois. Le grand échange qui se fait aujourd'hui entre les États-Unis qui importent les produits de la Chine, qui favorisent l'exportation de la Chine, et d'autre part, les Chinois qui sont prêts à mettre leurs immenses réserves pour combler les déficits américains, c'est un phénomène majeur. On n'avait pas vu cela auparavant. Et même quand vous regardez les relations entre les pays européens et les États-Unis, tout le monde proteste contre l'euro qui est fort à l'heure actuelle, mais les gens ne savent pas que l'équilibre américain et non pas rétabli, mais le déséquilibre américain est corrigé par des mouvements de capitaux qui viennent des pays développés et notamment des pays européens. Il n'y a pas seulement les Chinois qui aident les États-Unis. Alors, quelle est la vision générale? Je crois que l'expérience du passé a été très présente dans le demi-siècle dernier et que l'on ne veut pas revenir à des conflits. Qu'il y ait des réactions, c'est tout à fait normal. Que des gouvernements aient à faire face à des gens qui se sont mal adaptés et qui souffrent d'un certain nombre de difficultés, c'est tout à fait normal. Mais à ce moment-là se pose le problème. Que faire en face de cela? Ne pas protéger, mais au contraire, aider ceux qui sont en difficulté à surmonter leurs difficultés et à devenir compétitifs. Et voyez-vous, c'est à mon avis le problème majeur de la France. La France a été protectionniste depuis très longtemps. Elle a fait ses premiers pas dans la liberté des échanges. Je parle de la deuxième moitié du siècle, parce qu'au XIXe siècle, la France était très libérale, très ouverte. La deuxième moitié du XXe siècle, les Français ont compris qu'ils devaient saisir les occasions de donner des champs d'activité plus larges à leurs entreprises, et ils ont accepté l'Europe. Mais avec cette idée que la communauté européenne s'était transposée les frontières à la limite de la communauté d'alors. C'était pour eux le sentiment de protection qu'ils avaient en eux qui se trouvait favorisé. Et je crois qu'un phénomène comme le non-français au référendum vient essentiellement de ce que les Français se sont dit maintenant. Nous n'avons plus de cocon dans lequel nous trouver. Il y a non seulement des concurrents européens qui arrivent, mais il y a les concurrents mondiaux. Qu'allons-nous devenir? Toujours cette idée de faire appel à une certaine protection plutôt que d'effectuer les réformes qui nous permettraient, sans aucune difficulté à mon avis, de nous adapter au monde d'aujourd'hui.
Monsieur Barre, le libéralisme n'a pas bonne presse non plus en ce moment. Le président Chirac disait encore dernièrement qu'il faudrait réformer ce libéralisme, qu'il faudrait inventer une autre sorte de libéralisme. Comment éviter un nivellement des salaires par le bas au niveau mondial? Comment éviter certains affres du libéralisme? Ou ne voyez-vous que des avantages?
Madame, n'attachez pas trop d'importance à ce qui se dit pour des raisons souvent politiciennes, à l'égard du libéralisme. Le libéralisme moderne, ce n'est pas le laisser-faire, laisser-passer. Ce n'est pas une organisation de la société et de l'économie où l'État est absent. Ce sont les modalités d'intervention de l'État qui changent, qui passent des mesures de protection et des mesures d'assistance à des mesures de promotion des activités économiques. Il y a un fait que personne ne peut ignorer. Le système soviétique a longtemps été considéré comme le système qui s'opposait au libéralisme. Il s'est effondré. Et dans tous les pays à l'heure actuelle, on accepte le libéralisme, c'est-à-dire l'économie de marché, l'économie d'entreprise et l'économie de compétition. Voilà les trois éléments fondamentaux aujourd'hui. Je ne dis pas qu'un gouvernement doit rester les bras croisés face à des problèmes qui sont graves. Prenez par exemple la France. Son rythme de croissance n'est pas suffisant pour créer tous les emplois dont les jeunes Français auraient besoin. Nous avons mis en place le traitement social du chômage. Ça ne durera pas éternellement. Il faudra bien qu'un jour, on revienne à un traitement économique du chômage. Mais pour ma part, je ne critiquerai jamais un gouvernement de quelque tendance qu'il soit à mettre en œuvre un traitement du chômage avec l'aide de l'État pour essayer d'atténuer les difficultés qui se présentent. Mais dans ce cas-là, je veux bien le traitement social du chômage. Mais ce que je demande, c'est quelle est la réforme du système éducatif qui est indispensable pour faire face au monde moderne.
Monsieur de la Rosière, sur le traitement social du libéralisme et donc de la mondialisation.
Non, moi j'adhère à 100% à ce que vient de dire Monsieur Barre et qui est frappé au sceau à la fois de la connaissance économique et du bon sens. Le problème n'est pas de réduire le chômage par des palliatifs, par des aides indéfinies aux personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Le problème, il est de faire en sorte qu'il y ait des emplois dans notre économie. Et si vous êtes en charge du gouvernement d'un pays comme la France, la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un chômage qui est autour de 9 à 10%? Qu'est-ce qui fait que les entreprises recrutent moins de personnes qu'il n'y a d'offres sur le marché de l'emploi?
Et justement, certains disent que la mondialisation est responsable de ce chômage.
Oui, mais il y a des gens qui disent n'importe quoi. La vraie raison pour laquelle il y a des gens qui ne trouvent pas à s'employer dans l'appareil économique des entreprises en France, c'est que, malheureusement, trop d'entreprises ne veulent plus recruter parce qu'elles préfèrent recruter dans des pays étrangers où la mobilité du marché de l'emploi, l'aisance du marché de l'emploi est plus grande, ou bien elles préfèrent faire des gains de productivité intensifs, ce qui s'est passé en France depuis une vingtaine d'années, et qui améliore la productivité des entreprises, mais au détriment cette fois-ci de la main-d'œuvre. Et donc, il me semble qu'il faut se poser ces questions-là. Et quand on se pose ces questions-là, qu'est-ce qu'on voit comme réponse? On voit que systématiquement, depuis plus de 30 ans, on a favorisé en France le traitement social du chômage et on a défavorisé l'incitation par voie fiscale ou de moindre cotisation de sécurité sociale ou de sociale en général, le recrutement de jeunes. Et moi, je crois qu'il faut, cette fois-ci, ne pas mettre la charrue devant les bœufs, mais derrière les bœufs, et se dire que ce qui entraîne, ce sont les entreprises, et il faut desserrer les liens qui enserrent les entreprises. Il faut les aider à recruter. Une manière de les aider à recruter, c'est d'élever le niveau de la qualification de la main-d'œuvre. Parce que si vous avez une main-d'œuvre qui sort de l'école et qui n'est pas adaptée aux entreprises du monde moderne, ben, on va hésiter à les recruter. Et donc, ce n'est pas une perspective qui nous réjouit de voir que beaucoup de jeunes sur le marché de l'emploi n'arrivent pas à trouver un recrutement.
Ou vont à l'étranger,
car il y a maintenant une fuite de cerveau qui devient importante au niveau notamment des cadres. Et donc, je crois qu'il faut se poser ces questions fondamentales avant d'attaquer le libéralisme. Il faut se dire, moi j'aimerais qu'on se dise, mais attirons même des étudiants étrangers. Faisons comme les États-Unis qui essayent d'attirer des Chinois, des Indiens dans leurs universités pour créer une main-d'œuvre qui contribue au développement économique et donc social du pays. Donc je suis personnellement pour une université dynamique, responsabilisée, beaucoup plus autonome qu'elle ne l'est, beaucoup plus compétitive, accueillant des étudiants étrangers qui font levier sur les étudiants du pays, de façon à se faire sortir et de l'éducation nationale au niveau secondaire et de l'éducation nationale au niveau supérieur, des gens qui soient véritablement désirés et recrutables par les entreprises. À ce moment-là, vous verrez que le 9% ou le 10% de chômage descendra à 5% ou à 4% comme il est en Angleterre. Et à ce moment-là, on n'aura plus à se poser le problème du libéralisme. Le libéralisme, c'est un peu, vous savez, ce qu'on appelle, enfin, c'est la manière de trouver une excuse, c'est un alibi.
Vous avez parlé du traitement du chômage. Comment voyez-vous l'avenir des salaires en France? C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que la mondialisation aboutit à un nivellement des salaires par le bas?
La mondialisation, évidemment, quand vous mettez en parallèle des pays dont le salaire moyen horaire est très nettement inférieur au salaire moyen horaire qui existe dans des pays développés comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ce sont des différences plus que de 1 à 10. ces différences de 1 à 20 ou 1 à 30. Elles se réduisent d'ailleurs. Elles sont en train de se réduire. Je voyais aujourd'hui dans un article du Financial Times qu'on commençait à avoir du mal à recruter des cadres en Chine et que les salaires montent à toute vitesse. Donc il y aura des phénomènes de réégalisation des salaires. Mais c'est vrai que pour le moment, l'embauche en Chine ou en Inde est à des taux très nettement inférieurs aux nôtres.
Et c'est bien là la question centrale, quand même, des crispations sur la mondialisation.
C'est une des questions centrales, et c'est pourquoi il faut faire un peu ce que font les Allemands, qui, malgré leur « haut » entre guillemets salaire, et malgré le « haut » entre guillemets euro, réussissent à être les premiers exportateurs du monde avant la Chine, je vous le rappelle. Et pourquoi est-ce qu'ils le sont? Ben parce qu'ils ont fait beaucoup de ces réformes de structure, notamment au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau de la flexibilité du marché du travail, que nous tendons un peu à reculer, à faire en France. Et donc, il n'y a pas une malédiction sur les pays dits à haut salaire. Vous pouvez avoir des salaires plus élevés qu'à l'extérieur si vous compensez ces hauts salaires par une technologie plus avancée, par des capacités d'innovation, d'être toujours un coup d'avance sur les marchés. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien marier des services de haute technologie dans votre pays avec d'ailleurs des employés que vous avez à l'étranger et qui font d'autres choses dans la chaîne de la production. Je vous rappelle que 50% des importations chinoises aux États-Unis proviennent de firmes multinationales américaines établies en Chine. Donc, d'une certaine manière, ce sont bien les entreprises multinationales dont les quartiers généraux sont dans les pays développés qui utilisent cette main-d'œuvre à bas coût. C'est pas seulement les Chinois qui nous pénètrent, c'est aussi nous-mêmes qui nous pénétrons. Nous vivons la mondialisation.
En France, la question se pose. Prenez nos entreprises qui sont devenues des fleurons de la compétition internationale. On citait encore récemment les profits abondants qui ne cessent d'augmenter du fait de ces entreprises. C'est tout simplement parce qu'elles sont allées chercher des marchés, elles ont eu des progrès de productivité qui leur ont permis d'être compétitives. Et si aujourd'hui, vous n'entendez pas de protestations sur les salaires dans les entreprises comme Total ou dans l'Air Liquide, c'est parce que la redistribution des fruits de la croissance se fait dans de bonnes conditions. Qui protestait jusqu'ici? C'était les actionnaires, beaucoup plus que les syndicats. En matière de développement de nos entreprises, voyez quelle est l'importance des marchés extérieurs et des délocalisations. Et voyez aussi quelle est l'importance du fait que ces entreprises investissent, développent l'innovation, développent leur capacité de production. Et là, j'en viens à un point qui m'a toujours frappé dans l'économie française, c'est que nous ne sommes pas insuffisamment soutenus par l'investissement national. Depuis un certain nombre d'années, l'investissement en France stagne. Et c'est là un des domaines où l'État peut intervenir. C'est dans le domaine de l'investissement. N'oublions pas les bonnes leçons des économistes classiques. Ricardo disait « L'emploi est limité par le capital. » Si vous voulez développer l'emploi, il faut développer le capital, c'est-à-dire investir.
La médiathèque de Canal Académie, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme? Vous avez apprécié cette émission? Vous aimeriez réentendre cet académicien? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
Pour terminer, monsieur de la Rosière, quel est pour vous le pays qui servirait peut-être de modèle d'adaptation à cette mondialisation? Est-ce que le modèle scandinave est pertinent?
Non, je ne crois pas qu'on puisse plaquer des modèles sur d'autres pays. Ce qu'on peut faire, c'est dans chaque domaine d'activité, c'est étudier ce qui marche, ce qui a bien marché à l'étranger et ce qui marche peut-être moins bien chez nous. Et ça, c'est une étude intéressante. Par exemple, sur le plan de l'équilibre budgétaire et de la dette. Il y a des pays, comme le Canada par exemple, ou l'Australie, ou la Suisse, ou la Suède, ou le Chili, je pourrais en citer beaucoup, parce que j'ai fait des études comparatives, qui ont très bien réussi, après des situations très dégradées, à reprendre les choses en main. Ce sont des pays qui ont maintenant des niveaux de dette publique très faibles par rapport à leur produit intérieur brut, de l'ordre de 10 à 15%. Ce sont des pays qui ont donc peu de charges financières dans leur budget, et ce sont des pays qui ont pratiquement maintenant un équilibre, voire dans les bonnes années de conjoncture, un excédent budgétaire. Donc, il y a des secteurs dans lesquels vous pouvez faire des choses utiles. Regardez par exemple, en matière d'agence pour l'emploi, la Hollande, il y a quelques années, a décidé de privatiser son ANPE, de la privatiser, de la donner à des entreprises à capitaux compétitifs. Mais le marché de l'emploi a bénéficié de cette compétition sur le marché des ANPE, parce qu'il y en avait plusieurs, d'une manière foudroyante. Alors, je trouve qu'on peut regarder des expériences comme ça, pas des modèles généraux, mais des expériences, et s'en inspirer pour soi. Voilà.
Et permettez-moi de dire quelque chose à propos du libéralisme dont je parlais tout à l'heure. Keynes, qui avait une vision profonde des choses, a bien montré que ce qu'il fallait laisser aux initiatives privées et ce qui relevait de l'État. Toutes les fois, disait-il, que sur des questions fondamentales, l'entreprise privée ou l'activité privée n'est pas capable d'intervenir, alors l'État doit le faire. Et c'était la vieille distinction qui remonte au philosophe du XVIIe siècle, Bentham, la distinction entre les agendas, ce que l'État doit faire, et les non-agendas, ce que l'État n'a pas besoin de faire. Et à l'époque, Bentham expliquait qu'on comprenait très bien qu'en Angleterre, les agendas soient plutôt limités, parce qu'il y avait un dynamisme profond, mais que quand on voyait la Russie de l'époque, c'était les agendas qui l'emportaient. Et ça, c'est très important. Je crois que dans les structures mentales et sociales, il y a à tenir compte de ceux qui veulent avancer et de ceux qui se contentent de leur situation. Et c'est cela qui est à l'origine de l'inégalité. Et disons clairement qu'il y aura toujours des inégalités dans ce monde.
Une des propositions qui est faite sur le plan mondial, c'est la fameuse taxe Tobin qui est reprise, rejetée comme idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur de la Rosière ?
Oh, j'en pense beaucoup de mal. Je pense que ce n'est pas en taxant les mouvements de capitaux qu'on résoudra les problèmes de ce monde. Les problèmes de structure sont là. Monsieur Barr l'a expliqué très bien tout au long de cet entretien. Ce n'est pas parce qu'on va taxer les mouvements de capitaux. Les mouvements de capitaux, ils sont très utiles. Ils permettent à des pays un peu déshérités de trouver des investisseurs directs, de décoller. C'est un facteur de solidarité sociale mondiale phénoménal. Alors vouloir distinguer entre le bon mouvement de capital, le mauvais mouvement, celui qui est spéculatif à court terme, celui qui est plus long, c'est rétablir des contrôles d'échange, c'est vraiment le passéisme. Il ne faut pas faire ça.
Monsieur Barr ?
Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Cette volonté de tout contrôler, et surtout sur le plan international, est, passez-moi l'expression, ridicule. Parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Alors on fait des discours, on dit que on va réguler les mouvements de capitaux, mais là, on est bien content qu'il y ait des mouvements de capitaux puissants, rapidement disponibles, qui puissent permettre de saisir des occasions de développement qui, autrement, ne pourraient pas se manifester.
Et toute dernière question, monsieur de la Rosière, comment faire pour, et c'est notre avenir à tous dont il est question, comment faire pour que la mondialisation prenne en compte l'environnement ?
Ça, c'est un vrai sujet et ça mériterait, à mon avis, un entretien séparé. Parce que, effectivement, un des effets probablement le plus indésirable de la mondialisation, c'est la course effrénée, il faut bien le dire, à la consommation, disons, à l'européenne ou à la pays développé, de la part des pays en développement. Et donc, si chaque Chinois, dans la même proportion que les Français ou les Allemands, a une voiture et consomme la même chose, on va avoir des problèmes d'émissions de CO2 qui seront terriblement aggravés. On a déjà vu le relèvement des prix du pétrole directement lié à la consommation accrue d'hydrocarbures par les pays qui se développent à des taux de l'ordre de 8, 9, 10% par an. Donc, c'est un vrai sujet. Vous ne convaincrez des pays comme la Chine ou l'Inde de modérer leur croissance ou d'orienter leur croissance d'une manière plus compatible avec les problèmes d'environnement que si les pays développés, qui eux ont une espèce, si je puis dire, d'avantage, entre guillemets, puisqu'ils ont des consommations beaucoup plus grandes, au point de vue, disons, hydrocarbures par habitant, que si ces pays-là montrent non seulement l'exemple, mais un plus grand exemple que celui que l'on voudrait voir chez les pays en développement. On ne peut pas prendre une attitude dite un peu colonisatrice, qui consisterait à dire, écoutez, oui, mais nous, on est des anciens, alors on a un privilège, c'est qu'on a des consommations établies, vous, vous êtes les nouveaux, vous faites moins. Alors, c'est un exercice difficile, parce qu'il faut tenir compte et accepter un certain handicap, comme on dirait en termes sportifs.
Monsieur le Premier ministre.
Je vous dirais que, à l'heure actuelle, les disparités sont encore trop grandes pour qu'un raisonnement comme celui-là puisse réussir. Les disparités vont s'atténuer avec le développement de tous les pays émergents et d'autres pays dits en développement. À ce moment-là, la prise de conscience conduira les uns et les autres, pays développés, pays moins riches, à se pencher sur les règles du jeu qui leur permettront de maintenir un développement durable dans le cadre de la mondialisation. Car la mondialisation appelle une politique de développement durable.
Merci beaucoup, messieurs. Merci, Raymond Barre. Merci, Jacques Delarosière. Je vous rappelle que cette émission est réécoutable indéfiniment, à toute heure et n'importe où sur la planète. Vive Internet. Bonne journée.